Réplique, justice et politique, la séparation des pouvoirs, avec François Faletti et Antoine Garapon. L'actualité ne nous laisse aucun répit. Un événement chasse l'autre. Le 8e président de la 5e République s'installe à l'Élysée. Son gouvernement vient d'être nommé. On en examine, on en scrute, on en commente la composition. Et l'on ne pense plus aux aléas et aux rebondissements de la campagne présidentielle qui s'est achevée il y a maintenant 2 semaines. Je voudrais revenir en arrière pourtant. Car parmi les épisodes les plus marquants de cette campagne, il y a eu la mise en examen du candidat qui avait remporté haut la main la primaire de la droite et du centre, François Fillon. Des magistrats, autrement dit, ont changé le cours de l'élection. Ce n'est pas rien. J'ai donc invité François Faletti, qui fut procureur général de Paris de 2010 à 2015, et Antoine Garapon, une voix familière de France Culture, qui est secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Ils nous aideront à prendre toute la mesure de ce télescopage entre justice et politique. Je commencerai par une question un peu provocatrice. La séparation des pouvoirs a-t-elle été mise à mal par ce que les journalistes ont appelé avec gourmandise le Penelope Gate ? François Faletti.
Est-ce qu'il y a eu une atteinte à la séparation des pouvoirs ? En tout cas, il y en a eu une certaine perception. La perception, parce que je ne vais pas revenir sur les détails de tout ce que chacun a à l'esprit. On a eu un article qui est paru, on a eu une enquête ouverte le jour même. Cette enquête a été fortement médiatisée à travers des actes de procédure menés à marche forcée. Il y a eu également un certain nombre de violations du secret de l'instruction, alors que le dossier était entre les mains simplement, si je puis dire, d'enquêteurs, de magistrats et de responsables politiques.
Les avocats n'y avaient pas accès à ce moment-là.
Les avocats n'avaient pas accès à ce moment-là. Et c'était évidemment des fuites, présentées comme à charge. Donc, vous avez eu tout un ensemble d'actes qui ont été menés dans le cadre d'une enquête qui ensuite a donné lieu à l'ouverture d'une instruction, d'une saisine d'un juge d'instruction qui lui-même, eux-mêmes, puisqu'ils étaient trois, ont procédé à une mise en examen en quelques jours. Tout ça peut donner une impression, en effet, d'orientation d'une procédure judiciaire susceptible de peser sur le choix électoral des citoyens. Il faut bien comprendre qu'il existe un principe fondamental qui est désormais admis, qui nous vient d'ailleurs, je pense, des États-Unis, qui a été repris par la Cour européenne des droits de l'homme. Il suffit pas que la justice soit rendue. Il faut qu'elle soit aussi vue, c'est le terme anglais, seen, qu'elle soit perçue comme rendue.
Oui. Seen to be done.
Seen to be, justice not, must not only be done, it But must be seen to be done. To be done. Est-ce que c'est le cas ici? Alors, j'entends bien que nous sommes seulement, si je puis dire, dans les phases préliminaires, c'est-à-dire d'une enquête menée par un procureur et reprise en main par des juges d'instruction. C'est la phase de départ. Et la justice n'est pas rendue. C'est bien d'ailleurs justement une des difficultés. Car un jour, la justice, oui, sera véritablement rendue. Et il y aura un procès ou alors un non-lieu, on ne sait pas. Mais dans la phase qui était la phase cruciale, à savoir la phase du débat électoral, il est certain que, quelles que soient d'ailleurs les mises en cause médiatiques, la presse met en cause, elle évoque un certain nombre de faits, de comportements, c'est une chose. Ce qui est en question ici, à travers votre question à la Finkielkraut, c'est quel rôle a joué la justice par rapport à ces éléments mis sur la place publique.
Alors justement, François Faletti, avant de donner la parole à Antoine Garapon, et pour être sûr de vous comprendre, Je vous poserai deux questions. Estimez-vous qu'il aurait fallu, en cette période électorale, et pour que le combat politique se déroule à la Loyale, observer une trêve judiciaire? Et ma deuxième question ne sera qu'une manière de préciser la première. Si vous aviez été à la place des magistrats du parquet national financier, est-ce que vous auriez vous-même plutôt choisi d'attendre?
Alors, sur la notion de trêve judiciaire, j'ai déjà eu l'occasion de dire que ça me paraissait une formule maladroite. On peut pas demander à la justice de se mettre en complètement en retrait. La justice est dans la société. En même temps, on peut lui demander aussi, et c'est une réponse à votre question, de ne pas, en quelque sorte, en rajouter. Mobiliser des effectifs de police judiciaire, c'est quelque chose que j'ai demandé à de nombreuses reprises. Dans pas mal de dossiers lorsque j'étais en fonction. Et on me répondait assez régulièrement, on aimerait bien que cette enquête puisse être menée plus vite, mais on peut pas, on n'a pas les effectifs. Ici, on a une mobilisation, très bien. On a des enquêtes menées à marche forcée, très bien. Mais de ce fait, surgissent un certain nombre de questions. Alors, pour répondre plus précisément encore, est-ce que j'aurais fait... Je peux pas répondre franchement à cette question, parce que il faut avoir les éléments d'un dossier pour en parler avec la certitude d'un professionnel. Ce qui me paraît tout de même, c'est que un peu de réflexion lorsqu'on lit un article de journal n'est pas superflu. En 2015, lorsque le Parlement européen, Martin Schulz, le président du Parlement européen, a déposé plainte, il y a eu une réflexion sur la qualification de détournement de fonds publics. Et en définitive, le choix a été de dire, s'agissant d'assistants parlementaires, on est en présence d'abus de confiance. Donc il y a un débat juridique qui suppose tout de même, donc je pense, pour répondre vraiment et je finis, oui, il faut savoir prendre le temps de bien examiner les choses et comme on le fait normalement en professionnel.
Antoine Garapon. Alors il me semble qu'il faut comprendre cette affaire en la rapportant à un temps un peu plus long et un temps encore beaucoup plus long. Le temps un peu plus long, c'est l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac est une catastrophe pour le gouvernement Hollande, quoi, pour le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Et pourquoi? Parce que ça c'est vraiment celui qui vante la probité fiscale qui est en fait à dissimuler des comptes à l'étranger. Donc on crée une institution particulière, le parquet national financier, pour ce type d'affaires. Quoi, les titres motifs de compétence ou les plus exactement l'exposé des motifs disent des affaires d'un particulier retentissement. Donc ce qui est nouveau, ce qui est exceptionnel dans cette affaire, c'est que la justice marche. C'est que, au contraire, précisément, qu'elle soit d'un fonctionnement normal. Pour le dire d'une formule, ce n'est pas l'homme politique, c'est pas le juge qui devient un nouvel acteur politique, c'est l'homme politique qui devient un nouveau justiciable. Donc, il y a un bouleversement, et je crois que ce bouleversement tient à une évolution profonde de l'opinion. Alors, on est dans une configuration qui ressemble à l'affaire Cahuzac, parce que François Fillon fait de la probité son programme, le cœur de son programme, et en quelque sorte, il est en colère contre lui-même. C'est ça qui est terrible, exactement comme le piège Cahuzac.
Oui, alors, vous avez raison, Antoine Garapon. Tout le monde se souvient, en début de sa campagne, de cette phrase qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen.
Phrase terrible.
Une phrase terrible, d'ailleurs, car elle ne respectait pas la présomption d'innocence, en l'occurrence,
exactement.
Pour son concurrent. Ni d'ailleurs la séparation des pouvoirs, parce qu'elle conférait à la justice le soin d'arbitrer sa rivalité avec Sarkozy.
Et elle franchissait la personne privée, personne publique, voilà. Cette frontière, en mettant en jeu la personne
et
privée.
Et c'est vrai, j'ai pensé, je l'ai dit d'ailleurs, un proverbe africain, quand on monte au cocotier, il vaut mieux avoir le cul propre. Mais précisément, et là-dessus je voudrais avoir votre avis à tous les deux, je m'interroge sur ce qui rend la justice si expéditive. Parce que tout de même, Antoine Garapon vous dit, pour une fois, ça marche. Alors nous verrons si ça relevait de la compétence du parquet national financier. Mais en tout cas, parce que ce parquet ne disposait pas d'éléments assez graves et concordants pour renvoyer François Fillon devant un tribunal correctionnel, ce qu'il avait les moyens de le faire, le parquet donc a confié le dossier à 3 magistrats instructeurs. Ils ont été saisis le 24 février, soit 2 jours avant l'entrée en vigueur de la loi qui aurait provoqué la prescription de la plupart des faits incriminés. Ils ont épluché le dossier pendant le week-end, alors même que les policiers n'avaient pas eu le temps de produire un rapport de synthèse. Ce qui, selon le journal Le Monde lui-même, est très inhabituel en procédure. Dès le lundi, c'est-à-dire sans avoir procédé à la moindre investigation, les magistrats ont envoyé une lettre recommandée aux époux Fillon en vue de leur mise en examen, et François Fillon était convoqué le 15 mars, soit 2 jours avant la clôture des parrainages. Il y a là quand même, ça devient pas un justiciable normal. Le rythme a quelque chose de frénétique et donc d'anormal. Il fallait faire vite pour tout faire, et dans l'idée sans doute de tout faire pour que la vénalité n'entre pas à l'Élysée, mais était-ce des préoccupations encore judiciaires ou déjà malgré tout politiques?
Alors je vais y aller de mon adage anglais qui disent justice delayed, justice denied. Une justice délayée, et je reviendrai sur ce mot, c'est un déni de justice.
Et il faut savoir qui vient trop vite.
Il faut savoir que le temps est le vecteur de l'influence politique. C'est-à-dire que ce que peut faire, la première chose que peut faire l'influence politique sur une justice, c'est de la retarder. Parce qu'en la retardant, il se donne de l'espace, il se donne de l'oxygène pour agir et pour trouver d'autres stratégies. Donc, c'est véritablement l'objectif qui est de délayer la justice avec ce double sens du mot délai, c'est-à-dire à la fois elle est reportée, et puis quand une affaire arrive 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, comme ça a été malheureusement le cas, elle est totalement délayée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de saveur, elle n'a plus d'impact, et c'était peut-être l'objectif. Alors, si vous voulez, je crois en plus, dernier point, c'est que quand on ne fait pas les choses dans un même trait de temps, qui est la tendance actuelle dans la justice, qu'on appelle le temps réel, ça veut dire que le choix d'engager la phase active de la procédure paraît de plus en plus arbitraire. Et donc c'est terrible pour les juges ensuite quand on ne choisit pas d'être dans le même trait de temps. Après, pourquoi aujourd'hui, pourquoi au moment de tel coin, il y a toujours une coïncidence malheureuse.
François Valetti.
Je suis un petit peu surpris parce que, en fait, une fois encore, on pointe là où ça ne devrait pas être pointé, c'est-à-dire sur l'amont. L'enquête, la phase où les choses doivent aller vite, mais la justice n'est pas rendue, sauf erreur aujourd'hui, dans cette affaire. Encore une fois, là-dessus, moi, j'ai pas de... Je raisonne de manière très générale. Hein. On prend une sorte de cas d'école là, pour raisonner. La justice n'est pas rendue aujourd'hui. Il va y avoir des débats. Justice denied, mais peut-être que ça va durer des mois et des années, cette affaire. Et si jamais, au bout de quelques temps, on arrivait à un autre résultat que celui qui a été perçu par les gens. Est-ce que aura vraiment mené une œuvre de justice? Non, je pense que dans un cas comme celui-ci, la réserve s'imposait, c'est-à-dire de mener l'enquête, oui, bien sûr, d'ouvrir une enquête, s'interroger sur les qualifications, mener l'enquête, et puis les choses suivent leur cours. D'ailleurs, dans d'autres affaires, on ne manifeste pas le même dynamisme. Je ne vais pas ici citer, mais je lis beaucoup, comme chacun d'entre vous, dans un certain nombre d'articles de journaux ou de livres récents, on voit parfois des personnes qui sont dont les noms sont évoqués. On n'ouvre pas une enquête tout de suite, à toute vitesse et à bride abattue. Or, nous sommes ici en présence d'un contexte électoral majeur, l'élection reine en France, qui a lieu tous les 5 ans. Je trouve que il y a là un certain nombre de questions qui sont légitimes.
Alors, il y a une question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre avant de continuer le débat. Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, a dit qu'il avait pu soulever 23, je crois que c'est le chiffre qu'il a donné, irrégularités de procédure. Il les a envoyées au parquet national financier et nous dit-il, le parquet national financier n'a pas cru bon transmettre ce courrier aux magistrats instructeurs. Je rappelle qu'ils ont choisi le juge Tournaire parmi ces magistrats instructeurs, ce qui avait quand même un sens, puisque le juge Tournaire a choisi dans une affaire récente de renvoyer en correctionnel Nicolas Sarkozy, alors que Van Ruynbeck, un juge connu pour son intransigeance et son intégrité, pensait qu'il n'y avait pas d'éléments et avait refusé de signer ce texte. Mais ma question, c'est si des irrégularités de procédure sont avérées, est-ce que ça peut arrêter l'affaire? Est-ce que ça peut mener à une relaxe, un non-lieu ou non? Ça, je voudrais le savoir. François Valetti.
C'est un des problèmes. À partir du moment où un procureur travaille dans le cadre d'une enquête préliminaire, il n'y a pas réellement de recours. Pour qu'il y ait un débat contradictoire, il faut qu'on soit chez le juge d'instruction. C'est, à mon sens, une lacune de notre droit, mais qui tient à une évolution sur laquelle on reviendra peut-être. Mais l'enquête préliminaire dirigé par le procureur, a pris de plus en plus de place, y compris sur des enquêtes d'une certaine durée. C'est pas seulement l'enquête sur un vol à la roulotte. Maintenant, ce sont des enquêtes complexes. Or, nous n'avons pas de dispositif de recours. Et je pense qu'une des leçons, d'ailleurs, qui devra être tirée, ce sera sans doute de savoir s'il n'y a pas nécessité, au stade de cette enquête préliminaire, d'avoir la possibilité de recourir à un juge, ne serait-ce que parce que, par exemple, vous découvrez dans la presse qu'il y a des procès-verbaux qui sont évoqués, qui sont mentionnés, qui sont décrits, et vous-même, vous n'avez pas accès à ces procès-verbaux parce qu'il faut attendre qu'une instruction soit ouverte. Il faudrait qu'un juge puisse, à ce moment-là, intervenir et dire, écoutez, le minimum, c'est que déjà, vous puissiez avoir accès au dossier dans cette phase d'enquête préliminaire, puisque il y a de telles fuites sur lesquelles, apparemment, l'institution judiciaire, dans son ensemble, n'est pas capable de poser de parade.
Antoine Garde.
Alors, je crois que on voit que les difficultés, les reproches faits au juge nous conduisent à des reproches à adresser au système lui-même. Et je suis frappé de ce que l'attitude de la classe politique consiste à souvent maudire ce système sans le réformer. Et on a des imprécations par intermittence quand il y a des affaires qui ne manquent pas de se présenter et des réactions ab initio, mais il n'y a pas de véritable réforme. Ce que vous dénoncez, Alain Finkielkraut, c'est notre système. C'est notre système inquisitoire qui fait qu'il y a un rôle important accordé à l'enquête. Ce qui donne ses caractéristiques qui sont celles de notre système depuis le XIIIe siècle, c'est un pouvoir qui est à la fois brutal, moral et intrusif. Il est comme ça depuis 7 siècles. Réformons-le, plutôt que de maudire ceux qui l'appliquent en faisant leur travail. Donc, il me semble que la question et le paradoxe de la dernière réforme, c'est que après l'affaire Doutreau, on a dit il n'y aura pas seulement un juge d'instruction, il y en aura 3. On a multiplié le caractère inquisitorial par 3. Alors, peut-être que le problème est dans le système inquisitorial.
Mais il est dans le système, mais quand même, ces magistrats ont pris une lourde responsabilité. Peut-être devaient-ils le faire pour que justice soit rendue, dites-vous, Antoine Garapon. Mais admettons que tout cela débouche sur un non-lieu. C'est possible.
Mais bien sûr, sûr.
Mais alors là, vous vous rendez compte?
Mais bien
C'est-à-dire,
sûr.
C'est-à-dire, on pourra se dire que des magistrats pressés, vous n'y pas qu'ils aient été très très pressés, puisqu'ils ont réagi immédiatement à un article de journal, pas à autre chose, que des magistrats pressés ont ravagé une élection présidentielle. Car il est clair que si François Fillon n'avait pas souffert de ce Penelope Gate, et effectivement de ce contraste apparu entre l'intégrité dont il se paraît et les éléments à charge contre lui, il avait toutes les chances d'arriver au second tour. Peut-être pas d'être président, bien sûr, mais d'arriver au second tour. Donc ça serait, si vous voulez, rétrospectivement, complètement affolant. De même, autre possibilité, on apprendra peut-être un jour, quelles sont les sources? Parce que, comme le disent de nombreux témoins, il n'y a pas de journalisme d'investigation en France. Il y a des gestionnaires de fuite. C'est tout. C'est ça, le journalisme d'investigation. Donc, il y a une fuite. Admettons qu'on apprenne que la fuite vient de, je ne sais pas, l'Élysée ou Bercy. Peut-être qu'on l'apprendra pas, puisque le secret des sources est le seul secret qui soit gardé aujourd'hui dans la société de transparence. Il n'y a pas de secret
qui tienne. Ou de son propre camp.
Ou dans son propre camp. Ça, ça serait plus simple pour tout le monde. Exactement. Ça serait plus simple pour tout le monde. Ça vient de Rachida Dati. Mais admettons, il y a des chances que ça ne vienne pas de son propre camp. Il y a des gens dans l'autre camp qui avaient toutes les raisons, et on sait très bien lesquelles d'ailleurs, d'en vouloir à François Fillon, etc. Donc, et alors là encore, on pourrait se dire, mon Dieu, mais ça pourrait rejaillir sur l'actuel président et entacher sa présidence. Donc, on a là quelque chose quand même de très explosif, Antoine Garapon.
Mais ce scandale est permanent. Vous avez tout à fait raison, Alain Finkielkraut, de dénoncer cela. Mais c'est un scandale permanent parce que on sait que l'éclat médiatique fait par la mise en examen est infiniment supérieur, souvent, à celui accordé au jugement. Et il y a des affaires absolument, c'est l'affaire Longuet, tenez par exemple, qui a été innocenté par la suite.
Eric Woerth, il a fallu 10 ans.
Je pense aussi à tel haut fonctionnaire qui était mis en cause dans une affaire financière qui est décédé malheureusement et à qui on avait refusé toute promotion parce qu'il était ministre. Donc, oui, ce scandale est permanent. Je pense, revenons, quelle alternative ? On n'aurait pas accepté que les juges ne le fissent pas, que les juges ne mettent pas en examen parce qu'ils avaient des informations. On aurait dit, ah, de nouveau, c'est la justice. Je crois que nous assistons à une véritable évolution dans la sensibilité démocratique de notre société. Et pourquoi refuser une trêve judiciaire ? Parce que cette trêve judiciaire, elle existe depuis 2 siècles. Et que c'est précisément d'y mettre fin qui a été une nouveauté. Alors, il me semble, oui, réformons, regardons en face calmement, partant calme, tous les défauts de notre procédure, réformons-la et retrouvons un nouvel équilibre procédural. Mais on ne peut pas reprocher, encore une fois, aux juges d'avoir fait leur métier avec un système qui a des gros biais.
Oui. François Faletti.
Oui, réformons le système. Moi, j'en vois pas le chemin. Personne n'en parle de
ça. Ah ben oui, mais ça, je suis
personne
d'accord
n'en
avec
parle.
Vous.
Il y a eu 137 réformes. Enfin, j'ai vu ça quelque part. J'ai pas compté. Hein. 137 réformes du droit pénal, de la procédure pénale depuis 2000, l'année 2000. Voilà. Donc, on n'arrête pas de le réformer, mais on le bricole. Et je pense que là-dessus, on sera d'accord.
Sans toucher au cœur.
Sans toucher au cœur, sans remettre les fondamentaux sur la table. Cela dit, je suis pas, en revanche, d'accord sur l'autre aspect de l'analyse. Dire qu'il ne fallait pas aller à bride abattue, ce n'est pas dire qu'il fallait une trêve. Moi, je crois qu'il fallait simplement que l'affaire suive son cours normal. Or, il est clair qu'elle a suivi un cours accéléré, pour ne pas dire plus. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va se passer dans la suite ? Est-ce que l'institution va se sentir liée, compte tenu de l'enjeu gigantesque qu'évoquait Alain Finkielkraut, et qu'on va se dire, ah mais... c'est pas possible de remettre en cause parce que vous vous rendez compte un peu ce que ça voudrait dire. Ou alors, est-ce que elle va effectivement aller dans un autre sens? On n'en sait rien. Les choses sont trompeuses là.
Il n'y a pas de cours normal pour ce genre d'affaires. C'est toujours un cours tourmenté. Tourmenté par l'influence, par les influences, et plus le temps passe, plus ces influences se recomposent et prennent des formes différentes. Et je crois que c'est cela que les juges ont voulu éviter.
Oui, ils ont voulu l'éviter, mais quand même en toute quiétude. Parce qu'admettons donc, c'est une hypothèse, que la justice débouche sur un non-lieu, c'est difficile parce que l'institution n'aura pas forcément envie de se remettre en cause, mais admettons que ça arrive. On sait une chose, c'est que ni le parquet national financier, ni les magistrats parquet national financier, ni les magistrats instructeurs n'ont à répondre de ce qu'ils ont fait. Ils auront bien fait leur métier. Et là, je voudrais aller un peu plus loin, Antoine Garapon, parce que dans, je crois, Le Gardien des Promesses, vous dites que, effectivement, nous en arrivons à un monde où personne n'est intouchable. Ça m'a rappelé une très belle citation de Lévinas, la certitude que tous nos malheurs nous viennent du prochain, que de tout il y a responsabilité, le droit d'accuser et de juger, la civilisation, c'est peut-être cela, un monde qui a un sens. Sauf que, il y a deux corporations qui n'ont jamais à rendre des comptes. Les magistrats et les journalistes. Vous avez parlé de l'affaire Doutreau. Le juge Burgot, qui a dévasté des vies, est aujourd'hui à un poste au ministère de la Justice. Et qu'est-il arrivé aux magistrats qui se sont fait prendre la main dans le sac de cette horreur qu'a été le mur des cons. Hein, dans le syndicat de la sur un local, dans un local, sur un mur d'un local d'un syndicat de la magistrature, on épingle des cons, ce qu'on appelle des cons, parmi lesquels des personnalités politiques de droite, mais pas seulement. Il y a Philippe Schmitt, qui est le père d'une jeune fille assassinée dans le RER de 34 coups de couteau par un violeur récidiviste, et il y a aussi Jean-Pierre Escarfaille, dont la fille a été violée et assassinée par le tueur en série Guy Georges. et qui a fondé une association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels. Il figure sur le mur des cons. Bah, de ce mur des cons, le syndicat de la magistrature n'a jamais eu à rendre des comptes, et les journalistes ne l'ont pas demandé. Mediapart a envoyé une lettre au procureur Molins pour qu'il ouvre une enquête contre Cahuzac. Donc c'était quand même la première fois qu'un journal faisait cela, mais aucune lettre pour que le mur des cons soit sanctionné. Mais... Au contraire, ça a été la grande protestation parmi les journalistes et aussi parmi les hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon. D'où mon inquiétude, d'où ma question. Nul ne doit être intouchable, mais on a quand même le sentiment que les juges qui ont notre destin en leurs mains, et les journalistes aussi, eux, ne répondent jamais de rien.
Alors, c'est une impression en partie fausse, parce que les juges, comme vous le savez probablement, est la profession la plus sanctionnée de la République, beaucoup plus que les professeurs, beaucoup plus que les médecins, beaucoup plus que des professions comparables. Et puis, deuxièmement, la contestation fait partie de la procédure même par la voie de l'appel. Je crois que vous citiez Lévinas, moi je citerai Jean Carbonnier, disant « qu'est-ce que c'est qu'un jugement ? C'est un doute ». Qui décide. C'est-à-dire, on demande aux juges de mettre fin à l'incertitude. Et bien sûr qu'ils peuvent se tromper, et bien sûr qu'ils peuvent commettre des erreurs de procédure et des erreurs d'appréciation. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils sont au-dessus de toute responsabilité. Leur responsabilité peut être maintenant mise en cause devant le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, en ce qui concerne le mur des cons, moi, je vois pas quelle infraction on pourrait leur reprocher d'abord. Puis deuxièmement, je crois qu'on ne gagne rien, et ça nous fait peut-être passer sur la deuxième plan de cette émission sur la séparation des pouvoirs, à maudire les juges, surtout que en l'occurrence, c'est un peu comme si on rentrait dans une salle de garde interne en médecine et qu'on disait, parce qu'ils mettent des obscénités sur les murs, ce sont des mauvais médecins. Enfin, si on regardait vos notes à l'infini en compte...
Vous pouvez faire une chose pareille. Et on n'a jamais vu des médecins maudire leurs malades. Là, ce sont des juges qui maudissent les justiciables éventuels. Moi, je ne peux qu'être rempli de frayeur, parce que je me dis, mais peut-être un jour vais-je figurer sur son mur des cons, et peut-être vais-je me retrouver face à un magistrat à la 17e chambre, notamment, vous voyez, parce que le type d'accusation... Et à ce moment-là, je serai sûr de sa partialité. Donc c'est quand même un sujet d'inquiétude.
Vous avez raison de dire que c'est révélateur absolument d'un malaise profond, et sur lequel je reviens et je pourrais l'analyser. C'est révélateur d'un malaise. Mais en même temps, je ne veux pas alimenter cette disqualification des juges qui n'a de... pour correspondance que la disqualification de la classe politique. On est dans un débat, dans une relation impossible pour l'instant entre le pouvoir politique et la magistrature. Et ce qui est important, c'est d'en comprendre les causes pour en trouver les solutions.
Oui, je peux, dans une certaine mesure, aller dans le même sens. 40 années, 41 ans dans la magistrature m'ont montré toutes les exigences professionnelles des magistrats et leur rigueur. Donc il faut se garder vraiment des généralisations et vraiment c'est un métier extraordinaire et les magistrats en sont conscients. En même temps, ça doit justement nous amener à nous interroger. Alors, je trouve un peu facile de dire c'est le système. Oui, le système, il faut, mais c'est la mode, il faut changer le système. Mais en même temps, il faut... mais je suis d'accord, le système judiciaire a besoin d'être profondément remodelé. Retravailler beaucoup. Mais justement, un des premiers axes, avant d'attendre ces jours lumineux, c'est déjà que les acteurs se comportent avec la prudence qui sied. Et cette notion de prudence ne me paraît pas quand même quelque chose d'incongru quand on parle de magistrats. La justice doit être sereine. Elle doit être en retrait. Elle doit être, bien sûr, elle est dans le monde, elle est dans la société. Elle doit être réactive aux problèmes de la société. Mais elle doit le faire justement en montrant qu'elle n'est pas comme tout le monde. Et l'affaire du mur des cons, est un grave problème, hein, malgré tout. Et je rassure Alain Finkielkraut, elle est audiencée au tribunal correctionnel de Paris pour novembre 2018, si j'ai bien vu. Donc,
la justice, c'est
on sait, progresser.
Prudence dans la part visible de l'institution, c'est-à-dire que, comme le disait Hannah Arendt, l'espace public, c'est un espace d'apparition, c'est un espace dans lequel chacun se compose son rôle, et c'est tant mieux. deux, parce que si on devait regarder et rendre chacun transparent pour voir non seulement la cuisine mais l'arrière-cuisine, je crois qu'on ne vivrait plus, c'est vrai, des juges comme des citoyens. Donc il me semble que là, ce qui est significatif, cette affaire est significative d'une relation incroyablement dégradée, et on a trouvé cette affaire qui est choquante mais qui reste pour moi un prétexte, et dégradée parce que il me semble que nous sommes en présence, et c'était manifeste dans l'épisode Fillon, c'est-à-dire il y a une revendication de la part du corps politique d'un pouvoir absolu au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'un pouvoir qui n'a pas à rendre compte des lois mais qu'il vote.
Alors, ça peut se renverser, Antoine Garapon. Dans la Constitution, vous le savez mieux que moi l'un et l'autre, on ne parle pas de pouvoir judiciaire. Il y a une autorité judiciaire. Le pouvoir vient du peuple. Il y a deux pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et le peuple souverain vote. Il vote pour ses gouvernants. Il ne vote pas pour ses juges. Et ceux-ci défendent une certaine idée de la loi et une certaine idée du droit. Mais justement, n'y a-t-il pas un risque d'impunité? Parce que, fort heureusement, ils ne sont pas élus. Mais donc, ils n'ont pas vraiment de compte à rendre. Et j'ai du mal à comprendre que vous disiez, Antoine Garapon, que l'affaire du mur des cons est un prétexte. Parce qu'elle est révélatrice d'une politisation, d'une idéologisation d'un certain nombre de magistrats, qui peut être extraordinairement inquiétante. Dans le livre qu'il a consacré à cette affaire, Clément Weil-Reynal, puisqu'il est à l'origine justement de la révélation du mur des cons, celui-ci cite un des fondateurs du syndicat de la magistrature, Oswald Baudot. Soyez partiaux, pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d'un côté. Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas forcément avec le délinquant et sa victime, et ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Mais je suis désolé, j'ai du mal, je suis sidéré par une déclaration, parce que elle signifie, et il me semble que le mur des cons s'inscrit en droite ligne dans cette philosophie-là. Et là, je m'interroge. Cette autorité judiciaire, ne faut-il pas faire en sorte qu'elle soit un peu plus exigeante envers elle-même et qu'elle poursuive, même s'il est inaccessible, au bout du compte, l'idéal d'impartialité? Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois que c'est l'idéologisation et peut-être même la syndicalisation de la magistrature est un phénomène qui est celle d'un service public et pas celle d'une magistrature. Mais le phénomène de politisation est en régression, vu de l'intérieur, est en grande régression par rapport à ce que disait Oswald Baudot. Et ce dont témoigne l'affaire des murs des cons, c'est cette difficulté de la magistrature française aujourd'hui d'occuper véritablement une place de juge, parce que il n'y a pas de place pour les juges dans la tradition française, et il y a une relation extrêmement troublée, parce que si on revient à l'Ancien Régime, nous avions des parlements qui se conduisaient exactement comme le syndicat de la magistrature aujourd'hui, qui était en grève un mois sur deux et qui maudissait le roi, qui lui prétendait lui rappeler ses obligations morales, la volonté souveraine, en s'appuyant sur la transcendance divine. Et ils occupaient à la fois une fonction de séparation des pouvoirs, ou de contre-pouvoir, et une fonction d'administration du service public de la justice. Ils faisaient aussi mal l'un que l'autre, l'une que l'autre. Et la réforme Maupoux a voulu les dissocier, ça n'a pas réussi, et finalement Napoléon réussit en dissociant cette fonction de service public de la justice, et donc de fonctionnaire, disons le mot, de fonctionnaire de la loi, de la fonction de contre-pouvoir qui est laissée vacante. Qui est laissée vacante et qui va être occupée par les successeurs du conseil privé, c'est-à-dire par le Conseil d'État, mais qui ne pourra jamais occuper cette fonction juridictionnelle dans toute sa plénitude, parce que ce sont des hauts fonctionnaires qui occupent une fonction juridictionnelle. Alors on en est là, dans une dissociation de ces deux composantes de la fonction judiciaire, et j'appelle personnellement de mes voeux que les juges deviennent de plus en plus juges et qu'ils occupent cette double dimension
compréhension de leur fonction.
François Valetti. Oui.
Je crois effectivement qu'on a besoin de repenser très profondément notre dispositif. Je pars quand même du sondage qui a été publié par le Journal du Dimanche, toujours à propos de l'affaire Fillon, mais je ne vais pas y rester. C'est un sondage début mars, j'ai plus la date exacte. À propos de trouvez-vous normal ou justifié, je crois, la place occupée par les affaires dans la campagne électorale? Alors, vous avez 63% des gens qui disent oui, c'est normal, etc. La place par les affaires et dans la campagne, c'est important, etc. Et quand on regarde à l'intérieur de ces 63%, c'est le sondage qui le dit, on a beaucoup d'électeurs qui se disent plutôt soit de gauche, soit en tout cas des opposants, disons. Et puis vous avez 35% des électeurs qui, eux, trouvent que les affaires prennent trop de place dans la campagne électorale. Alors, on peut y retrouver sans doute des électeurs du candidat mis en cause, mais quand même un certain nombre d'autres. Et puis vous avez 2% seulement qui sont sans opinion. J'appelle l'attention là-dessus, 2% sans opinion, moi je ne suis pas un expert des sondages, mais ça me paraît assez rare. Hein. Il faut vraiment. C'est donc un sujet extrêmement clivant. Et si même un tiers des électeurs trouvent qu'il y a un gros problème d'immixtion de la justice dans les affaires par rapport à la campagne électorale, c'est un problème démocratique majeur. Bon, il faut le soulever. Alors, ce que je trouve tout de même dans ce contexte-là, c'est encore une fois que il faut la justice pour être rendue vraiment au nom du peuple français ne doit pas évidemment prêter le flanc à ce qui a été trop souvent son image, donc d'être dans la complaisance et d'étouffer, mais elle doit pas non plus donner l'image d'être dans l'instrumentalisation par le pouvoir politique qui y trouverait bénéfice. Donc c'est un équilibre extrêmement extrêmement exigeant qui s'impose à elle. Et je crois que notamment c'est vrai, je voudrais que pas terminer, c'est pas sortir cette émission sans l'avoir dit, je crois que la question du parquet est une question très très importante. On voit bien aujourd'hui la place prise par le parquet dans le déroulement des enquêtes. Moi, je ne suis pas de ceux, pour avoir été plus de 40 ans au parquet, pas de ceux qui pensent que la justice se résume aux juges qui jugent. Bien sûr, c'est essentiel et il faut qu'ils prennent le recul nécessaire, et notre système de déroulement de carrière mériterait d'être peut-être interrogé à ce sujet. Mais sur le parquet, moi je crois qu'aujourd'hui on a compris, et cette affaire en est une illustration éclatante, il suffit pas qu'un juge juge, encore faut-il qu'il juge les affaires qu'on lui apporte, mais aussi celles qu'on ne lui aurait peut-être pas apportées en fonction des circonstances. Et je pense qu'il y a une notion de la place juridictionnelle et pas seulement judiciaire du parquet qui doit être affirmée, et que aujourd'hui, moi,
quelle différence vous faites entre le juridictionnel et le judiciaire?
Il y a François Valetti. Le judiciaire, c'est toute l'activité de la justice au sens très large. Le juridictionnel, c'est vraiment le procès. C'est la phase processuelle, c'est le débat qui se déroule entre des parties. Et pour moi, ce procès, il commence, cette phase processuelle, juridictionnelle, elle commence déjà avec l'enquête, c'est-à-dire le procureur, il est déjà, lorsqu'il met en mouvement ou pas, en fonction des personnes, en fonction des situations, il est déjà dans une position d'acteur judiciaire et d'acteur juridictionnel.
Et vous pensez que cette position d'acteur, aujourd'hui, elle n'est pas très bien occupée?
Je pense qu'elle est insuffisamment protégée et garantie.
Parce qu'il n'y a pas de véritable indépendance du parquet?
Dans le processus de nomination, déjà.
Ah, d'accord.
Et puis, également, dans l'articulation entre le procureur et l'exécutif, on vit toujours avec un article 5 de l'ordonnance statutaire qui nous dit les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
Mais pensez-vous alors, François Valetti, que c'est ce qui s'est passé avec la mise en acte de poursuite, enfin, ou d'enquête contre François Fillon? Parce que là, le parquet national et financier, Antoine Garapon l'a rappelé, a été nommé à la suite du traumatisme qu'a provoqué l'affaire Jérôme Cahuzac. Le parquet national financier se sent les coups des franches, et peut-être en l'occurrence trop franches, parce que la note d'un juriste que je ne nommerai pas parce que je ne sais pas s'il a voulu la rendre publique, mais il dit que seuls les détournements de fonds publics dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, entrent dans la compétence d'attribution du PNF. Et dit ce juriste, ce n'est vraiment pas le cas de l'affaire Fillon, puisqu'elle n'est pas d'une grande complexité, ni par le nombre des auteurs, ni par celui des complices, ni par celui des victimes, ni par le ressort géographique sur lequel s'étendraient les faits infractionnels. Donc, peut-être le parquet national financier n'était-il pas compétent. En tout cas, il s'est saisi de cette affaire avec une certaine, avec une très grande rapidité, et tout laisse à penser qu'il l'a fait de sa propre initiative, justement, peut-être pour justifier son existence. Alors, est-ce que là, on est dans le cas d'une dépendance du parquet à l'égard du pouvoir exécutif?
J'ai accompagné, d'ailleurs, je l'évoque dans le livre sur les confidences du procureur général, là, que j'évoque cette création du parquet national financier, puisque j'étais en responsabilité comme procureur général de Paris quand il a été créé en 2014. Donc, je connais bien le contexte qu'a Usac, bien sûr. Je crois qu'en effet, il y avait une volonté d'affirmation de ce parquet national pour la lutte contre la grande criminalité et la corruption. En même temps, c'est vrai, ce que dit votre juriste, c'est à propos des affaires de grande complexité. Alors, est-ce que collecter des pièces, des fiches de paye est d'une grande complexité? Je ne sais pas. Ça, c'est, il faut voir. Mais c'est vrai que lorsque le parquet financier s'est saisi, par exemple, des scandales de la corruption dans le football ou dans international, ou des scandales autour des Panama Papers, je pense que personne ne conteste la grande complexité de ce type de dossier. On verra ce que diront.
Oui, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il l'a fait de sa propre initiative, et donc là, on ne peut pas parler d'une mise sous tutelle du parquet par le pouvoir politique.
On ne peut pas parler, et d'autant plus que depuis 2013, les parquets ne reçoivent pas d'instructions. Mais c'est vrai que leur carrière demeure très largement dépendante des propositions de l'exécutif.
Et ça devrait être modifié, selon vous.
Voilà, oui, bien sûr.
Je voudrais revenir sur un trait de notre culture qui a été illustré par l'affaire Fillon, qui est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anti-juridisme, qui caractérise la culture française, notamment à travers sa littérature, mais également la politique, c'est ça, à la fois sa vénération du droit avec un D majuscule et sa détestation du droit avec des petits D ou de la procédure. Et il y a plusieurs traditions, la tradition sceptique de Montaigne, de Rabelais, la tradition pascalienne, la tradition plus proche de nous, Hugo, et nous avons finalement, il y a très peu de gens qui défendent le droit dans notre patrimoine culturel et encore moins dans la politique. Si on prend l'exemple de l'affaire Dreyfus, qui me semble très intéressant, l'affaire Dreyfus commence comme une affaire juridique et judiciaire, termine comme une affaire politique. L'arrêt de la Cour de cassation passe pratiquement inaperçu. Et finalement, la grande conclusion, c'est la création de la Ligue des droits de l'homme, c'est un transfert à la rue et à Zola, c'est-à-dire qui commence d'ailleurs par l'article de Zola, et à l'opinion publique pour trancher cette affaire. Alors que dans une autre tradition, je pense à la tradition de common law, anglaise ou américaine, on aurait vu une mise en cause des droits fondamentaux et une correction par les contre-pouvoirs, ce qui n'a pas du tout été le cas en France.
Oui,
et c'est très singulier à notre histoire.
Quand même, vous parlez d'anti-juridisme, alors même qu'on peut s'inquiéter des libertés prise par la justice avec la procédure. Si le parquet national financier se saisit d'une affaire qui n'est pas de sa compétence, on a un problème juridique. Si la justice va trop vite et si les magistrats instructeurs mettent en examen quelqu'un sans aucun supplément d'enquête, c'est peut-être précisément au nom du droit qu'on peut s'en formaliser. Parce que là, certes, ce n'est pas un justiciable comme les autres, et on peut avoir toutes les raisons et morales et politiques de vouloir qu'il soit écarté de la présidentielle, mais nous sommes tous des justiciables. Et donc, si la justice s'émancipe des procédures pour ce qu'elle croit être le juste et le bien, il y a, une inquiétude légitime.
Bien sûr.
Des justiciables que nous sommes devant ce genre de comportement. Oui.
Alors on ne peut pas dire on ne peut pas dire ça dans l'affaire Fillon. On ne peut pas dire qu'il y ait d'entorse majeure à la procédure. Il y a peut-être des discussions. Il y aura des discussions et c'est une fort bonne chose devant les juges d'instruction et à l'audience. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait d'entorse majeure ni de volonté du PNF ou des juges d'instruction d'exercer un magistère moral sur la politique. Ce que je crois, c'est qu'il faut comprendre les raisons profondes de cette montée en puissance des juges, qui est un phénomène qui gagne toutes nos démocraties. Et je me permets de lire une excellente citation de Philippe Reynaud sur le juge et philosophe, où il dit, dans le fond, dans cette l'autorité nouvelle des juges, je cite, « joue sur les mêmes ressorts qui ont permis d'asseoir au siècle dernier celle des assemblées représentatives, alors même qu'elles semblent parfois en concurrence avec ces dernières. Il s'agit toujours d'opposer l'aspiration à la transparence aux habitudes du secret et de l'arbitraire, de dissocier la majesté des lois ou du droit de la déférence envers les puissants. La légitimité croissante des juges va de pair avec l'agacement du citoyen devant les gyrophares des ministres. » Et fin de citation. Il me semble qu'il y a dans cette... Il faut comprendre la modification, le changement que nous vivons actuellement et dont l'affaire Fillon est une illustration. Nous rentrons dans une démocratie transformée par le rôle des médias et de l'opinion et le rôle des juges, ce qui ne veut pas dire que les juges sont les fossoyeurs de la démocratie. Ils pourraient au contraire être ceux qui incarneraient une nouvelle expression, un nouvel équilibre, non pas pour se substituer aux gouvernants, mais pour recadrer les gouvernants dans une démocratie apaisée et respectueuse du droit.
François Valetti.
Oui, moi je reviens aux origines, c'est-à-dire l'ouverture de l'enquête. Le procureur dispose d'un pouvoir extraordinaire, et que vraiment auquel je crois tout parquetier est profondément attaché. Ça s'appelle l'opportunité des poursuites. Ça veut dire j'ouvre une enquête ou je classe un dossier. C'est formidable. Vous faites naître une affaire ou au contraire vous la laissez partir sur l'étagère des archives. C'est quelque chose de considérable et qui est exercé tous les jours avec beaucoup de professionnalisme par tous les parquetiers. Plus de 97% je crois aujourd'hui des affaires sont menées dans ce cadre-là sous la direction du procureur. Et cette responsabilité de dire j'ouvre une enquête, je la conduis plus ou moins vite, avec plus ou moins de moyens, je mets des officiers de police judiciaire, encore une fois on en manque cruellement, et ce serait un sujet en soi d'y revenir, je les mets sur cette affaire et pas sur cette autre affaire. C'est un pouvoir formidable, et je crois que c'est un élément d'ailleurs d'efficacité du système judiciaire. Simplement, je reviens à mon propos tout à l'heure, il faut que, comme tout pouvoir, cela crée une responsabilité. Il faut, c'est un devoir, montrer qu'on use de cette prérogative avec toute la transparence et
la prudence,
qui s'y est. Prudence, non pas au sens de dire soyons circonspects, pas du tout.
Non. Mais c'est la sagesse pratique, la phronésis des Grecs.
Oui, voilà, montrer que oui, vous avez en face de vous quelqu'un qui mène une investigation avec sérénité et sans acharnement. Voilà, donc ça c'est une énorme responsabilité. Et je pense, comme Antoine Carapon, qu'il manque dorénavant, c'est malheureusement un peu plus visible, et je le regrette un peu, une forme de contre-pouvoir à ce stade-là. C'est dommage.
Alors, justement, je voudrais poursuivre sur cette question du rôle accru aujourd'hui de la justice. Vous avez cité Antoine Carapon, un philosophe, Philippe Reynaud, j'en citerai un autre, Robert Legros, qui qualifie, je trouve, de manière extrêmement pertinente, la spécificité de la démocratie moderne. Droit de l'homme et des citoyens, dit-il. Il n'y avait pas de droit de l'homme et des citoyens à Athènes. Et il disait, ça veut dire que tous les pouvoirs émanent de l'humanité, s'exercent au nom de l'humanité et s'accomplissent sous la surveillance de l'humanité. C'est une limite, précisément, démocratique à la souveraineté populaire. Et dit-il, une loi qui serait contraire au principe d'autonomie de l'homme, une loi qui abolirait la liberté de la presse, au principe d'égalité des conditions, au principe d'indépendance individuelle, serait considérée comme contraire au droit et même à la démocratie par les juges. Mais voyez, là, si vous voulez, donc vous avez des responsables politiques qui parlent au nom du peuple, mais vous avez des juges qui, en quelque sorte, défendent, s'expriment en fait au nom de l'humanité. Et ça peut les conduire à une certaine intempérance, si vous voulez. C'était, vous voyez, le sentiment que il représente l'humanité face à une souveraineté populaire qui peut toujours errer. C'est le cas, par exemple, des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, qui suscite un certain agacement dans les pays européens parce qu'ils peuvent annuler des décisions ou remettre en cause la validité d'un certain nombre de lois au nom des droits dont ils sont dépositaires. Et est-ce que ça ne contribue pas à créer chez ces magistrats un sentiment de toute puissance? Et ce n'est pas de l'anti-juridisme que de s'inquiéter de cette toute-puissance de gens qui croient représenter l'humanité.
Mais alors, Robert Badinter parle de Vatican judiciaire à propos de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, là, on est dans une affaire nationale. Alors, je crois que personne dans une démocratie peut revendiquer le monopole du peuple. Le peuple a plusieurs états. Il a cet état qui est exprimé procéduralement par le vote et le suffrage et qui consacre le souverain. Mais il a aussi cette forme insaisissable de l'opinion, de la sensibilité. Et puis, il a cette forme temporelle qu'il est fondée par des pactes fondateurs dont les juges sont les garants. Donc, il me semble que la difficulté de la manière française de poser la question de la séparation des pouvoirs, c'est qu'on les met sur le même plan. Le juge n'est pas sur le même plan que le souverain. Le juge n'est pas élu. Et heureusement, parce que s'il l'était, il serait autrement saisi par l'hubris du pouvoir. Non, il me semble qu'il faut réarticuler des pouvoirs qui sont différents, dont la temporalité est différente, dont l'espace est différent, et dont la manière d'agir est différente.
Votre conclusion, François Faletti?
Précisément, c'est le mot temporalité qui me pose question. Il y a une phase dans les enquêtes, dans le déroulement des enquêtes, qui est une phase dans laquelle il n'y a pas de facteurs contradictoires. Et puis il y a une phase ensuite où on va voir la justice s'exercer véritablement avec le débat contradictoire, l'audience et le tout sous le regard du public et des citoyens. Et je crois que c'est vraiment ce qui a soulevé des interrogations dans l'affaire dont on a parlé.
Merci beaucoup pour cette belle discussion, François Faletti, Antoine Garapon. François Faletti, vous venez de publier « Confidence d'un procureur général de Paris » aux éditions Michel Lafon, et je cite votre dernier ouvrage, Antoine Garapon, coécrit avec Michel Rosenfeld, « Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global », c'est aux presses universitaires de France. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et réécoutable à vie. Je vous rappelle qu'Antoine Garapon anime sur France Culture la discussion du soir chaque jeudi à 22h15. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La guerre civile aura-t-elle lieu ?» et mes invités seront David Jaïz et Damien Leguet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bruno Mourlan. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.